Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris, un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Présenté aujourd'hui par Camille Labro. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline.
À 12h25, de quoi donc allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh bien, d'un petit périple que j'ai fait à Rungis, mais pas tout à fait.
À tout à l'heure, donc 12h25, le mystère reste entier. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Et de quelle madeleine s'agit-il aujourd'hui alors?
Bien, il s'agit de la madeleine de la comédienne Irène Jacob qui a plongé dans ses racines strasbourgeoises.
À 12h15, la madeleine de Matteo Caranta donc. Et puis nous, rencontre aujourd'hui dans Les Bonnes Choses entre une orfèvre de la vigne et un pèlerin des terroirs.
Voir à l'arrière de bas, ouais, c'est la terre, l'air. Composants, et puis le temps. Le vin va nous confier cette dimension du temps. C'est-à-dire le temps dont le vivant a besoin pour s'épanouir. Boire du vin, c'est cette dimension du mouvement, cette dimension du vivant, et où on va chercher la nature des choses. Goûter, c'est aller chercher sa nature. C'est pas décrire les choses, c'est pas ça du tout, c'est aller pour soi, avoir une relation intime avec cette matière vivante.
L'âme du vin, c'est un film de Marie-Ange Gorbanewski qui nous invite à déguster un certain nombre de vins et surtout qui rappelle la pratique vertueuse de certains vignerons. On a justement une viticultrice autour de la table aujourd'hui, Valérie Guérin, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et bienvenue, vous êtes viticultrice sur le domaine des 1000 vignes dans le Languedoc. Vous allez nous décrire comment est votre domaine dans quelques instants. Et puis avec nous également, un autre amoureux du vin, un autre passionné, Bruno Queniou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes caviste, vous tenez aujourd'hui boutique à Paris, elle a pour nom Philovino, après avoir dirigé les caves du Lafayette Gourmet pendant 18 ans. Vous signez La vie mystérieuse du vin aux éditions du Cherche Midi, c'est une déclaration d'amour au vin un peu particulière, on va l'entendre dans votre bouche, mais justement comme c'est une déclaration d'amour au vin, je tiens à vous rappeler à tous les deux quand même d'ailleurs si pour certains le vin n'est pas un alcool comme les autres, que l'abus d'alcool et donc l'abus de vin est dangereux pour la santé et qu'il doit être consommé avec modération. Voilà qui est dit. On va commencer avec vous par justement la passion qui vous habite l'un et l'autre. En entendant ce que nous entendions dans cet extrait de L'âme du vin, celui qui parlait de la dimension du temps, du mouvement, du vivant, qu'on allait chercher la nature des choses, qu'on avait avec le vin une relation intime avec une matière vivante. Est-ce que c'est vraiment ça, par exemple, vous qui avez, Valérie Guérin, les mains dans la terre en permanence?
Oui.
Est-ce que c'est ça, c'est la matière vivante?
C'est la matière et j'ai pris le temps pour rencontrer cette matière. C'est important aussi cette notion de temps. Moi, je suis devenue vigneronne à la maturité. La maturité que je cherche encore, là, pendant les vendanges. Toujours cette recherche du proche et du très mûr, c'est important. Je viens de terminer les vendanges il y a 10 jours seulement, on est en novembre. Je les ai commencées en septembre. J'étais dans les vignes en septembre, encore en octobre, et là je viens de rentrer mes derniers raisins.
C'est exceptionnel.
Des grenaches.
Ça,
je pense être une des rares à faire ça, à prendre le temps d'aller chercher la vraie et belle maturité. C'est la sagesse ça aussi. Mon père, lui, a pris le temps de créer le domaine dans les années 80, après avoir enseigné la viticulture, l'œnologie, dans la vallée du Rhône. C'est à l'âge de la maturité qu'il s'est offert le luxe de s'acheter 1000 pieds de vigne.
Et c'est lui d'ailleurs qui vous a mis le pied à l'étrier, ou plutôt le vin aux lèvres, en
oui,
l'occurrence. Il était
oui,
professeur de viticulture et d'œnologie. Qu'est-ce qui vous a transmis cette relation au temps, ou cette relation à la matière vivante qu'est la vigne?
La relation à la matière, c'est essentiel. Je viens là de décuver ma première cuve après 49 jours. C'est énorme.
Bruno Queniou. Votre père aussi était vigneron, hein?
Mon père était vigneron. J'ai plusieurs pères spirituels, dont mon père, qui était un vigneron passionné de vin. À l'époque, les gens, il y avait beaucoup de, surtout dans la région de Cheverny, on était plus dans le vin alimentaire. On avait la chance d'avoir quelqu'un qui nous chapeautait, qui nous amenait ce goût du vin, ce goût de la lumière dans les vins. Et on avait des tables, ma mère faisant bien la cuisine, on avait des tables de gens qui venaient le samedi midi manger et partager les bonnes bouteilles. Ils amenaient leurs bouteilles, on échangeait, etc. Et
nous, donc vous aussi, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit quand
complètement.
Même.
Complètement. Et les phrases, les mots qu'on vient d'entendre dans le film L'âme du vin sont de Jacques Puiset, pour moi qui est un de mes pères spirituels. Ce monsieur déjà âgé aujourd'hui, mais que je côtoie, j'ai la chance de côtoyer assez souvent. Et quand il parle de vin vivant, il parle de profondeur qui n'existe plus dans notre langage et dans la vie du quotidien. C'est-à-dire, il parle des profondeurs de l'espace, il parle des profondeurs du temps, il parle des profondeurs du silence, parce qu'on fait aussi le vin avec du silence. On parle aussi de la profondeur humaine. Et tout ça, c'est vraiment rassemblé dans les grands vins, les vins qui sont faits justement avec une certaine patience, avec une humilité. Et d'ailleurs, dans le film, Aubert de Villaine, le co-gérant et propriétaire de la Romanée Conti, dit cette chose magnifique, il dit « En Bourgogne, nous ne sommes pas propriétaires du terroir, nous sommes des serviteurs ». Et ça, c'est vraiment important, puisque l'homme est au service de quelque chose qui le dépasse, qui est beaucoup plus grand. Et c'est comme ça qu'on fait les grands vins, c'est pas en étant propriétaire et croire qu'on va posséder.
Vraiment, le vin, c'est l'expression du terroir. C'est pour ça qu'on cherche toujours par les labours, le travail du sol. Quand on fait le labour, on coupe les racines qui sont superficielles. Vous savez qu'il y a des racines superficielles, puis vous avez des racines qui vont plonger, qui plongent en profondeur. Et c'est celles-là qui sont importantes. C'est celles-là qui vont chercher tous les éléments, l'expression du terroir en profondeur, l'expression de l'appellation. Voilà, c'est en profondeur.
Voilà un autre extrait de ce film L'âme du vin. Valérie Guérin, vous aussi, vous allez chercher l'expression du terroir en profondeur. Vous êtes d'accord avec ce que
je
viens de
dire ? Oui, je partage cet avis. Moi, je vais chercher au printemps. Au printemps, je vais travailler mes vignes. L'hiver, je vais les laisser au repos. Je vais laisser l'herbe pousser, je vais laisser la vigne en grande liberté, et ce n'est que vers le 15 avril où là je vais aller travailler les sols. Je vais aller travailler, casser la pellicule superficielle, je dirais, pas casser la croûte entièrement pour garder... Moi je suis dans le sud, c'est sec, c'est...
Narbonne et Perpignan.
Entre Narbonne et Perpignan, avec vue sur mer, j'ai 13 petits jardins, 13 petites vignes.
C'est 11 hectares que vous avez divisé.
J'ai 11 hectares, 4,
qui sont des jardins.
Répartis sur 13 petites parcelles, 13 petits jardins. Je me considère comme une jardinière. Une phrase que j'aime bien de Chateaubriand, c'est, et que je m'approprierai bien volontiers, c'est une maison de jardinier. Moi, je trouve les Milvines, c'est une maison de jardinier. Alors, on n'a pas des bottes, hein, il pleut pas, c'est sec, il y a le soleil. Mais on est bien dans cette maison-là de jardinier. On jardine tous les jours.
C'est quoi la particularité d'un terroir languedocien? C'est le soleil, justement?
Alors, je dirais, j'ai pas que un terroir. J'ai une diversité de terroirs. J'ai des sols argilo-calcaires qui vont être très très valorisants pour les grenaches, un peu comme à Châteauneuf, rouges avec du caillou roulé, en petits coteaux qui voient la mer, qui voient les étangs. J'ai des sols plus avec du schiste, j'ai des sols très caillouteux qui abritent par exemple une collection de 7 cépages de blanc, typiques de chez nous, qui donneront une cuvée qui s'appelle le pied des nymphètes. Donc,
il y a beaucoup de terroirs.
Il y a une diversité de terroirs. Et je pense qu'on peut avoir une petite structure, 13 petits jardins, 11 hectares, et pour autant avoir une diversité de terroirs. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je suis répartie sur plusieurs appellations. Les Milvines, c'est non seulement des rouges qui sont abrités dans l'appellation Fitou, c'est des muscats de Rivesaltes, puis c'est des vins de pays aussi. De la diversité. Et c'est intéressant pour moi parce que j'arrive à sortir des cuvées avec une identité propre, toutes différentes les unes des autres. Ça, je trouve que c'est assez chouette.
Bruno Queneau, je disais, vous êtes caviste, donc vous êtes marchand, mais vous êtes aussi un dégustateur, un buveur, je ne sais pas, un amateur, mais vous dégustez un certain nombre de vins, vous en connaissez un certain nombre. Vous disiez que vous aviez grandi à Cheverny, donc c'est plutôt dans la Loire que ça se passe. Qu'est-ce que vous diriez de la différence entre les vins de Loire avec lesquels vous avez grandi et les vins du Languedoc tels que nous en a parlé Valérie Guérin?
Déjà, les facteurs limitants ne sont pas les mêmes. Comme disait Valérie, dans le sud, c'est très sec, il faut conserver les humus, il faut faire très attention au sol parce que très vite on perd les humus justement. Et sur les argilo calcaires ça va à peu près, mais si vous êtes sur des granites ou des choses comme ça, ça va. Les humus, vous allez vite les abîmer. Donc il faut travailler vraiment en surface, faire très attention. Quand on est dans la Loire, surtout si on est des argilo calcaires, des argiles, où vous avez les humus qui sont beaucoup plus anciens, qui vont beaucoup mieux supporter et l'humidité. Va faire que les humus vont être beaucoup plus solides, le taux de micro-organismes va beaucoup plus fonctionner. En revanche, les facteurs limitants, ça va être parfois la pluie, des années comme 2018, où il a plu à des moments invraisemblables, ça a duré, ceci dit, dans le sud aussi, il y a eu des accidents.
Quelques épisodes.
Voilà, des épisodes difficiles, mais sinon, quand même, en général, on va avoir des fins de printemps qui sont souvent assez rigoureux, et là, il va falloir travailler, apprendre à travailler, suivre la vigne au jour le jour.
Vous dites les grands vins, Bonnequenou, sont faits de silence. Ça voudrait dire quoi, ça ?
Sont faits de silence parce que le silence, c'est l'humilité. Si vous voulez, on a 200 ans de matérialisme où on a fait du vin. Le but, c'était la saveur. Et vous parliez de dégustateur. Et moi, je me considère pas comme dégustateur, justement. Moi, j'ai appris avec les nobles buveurs et pas avec les dégustateurs.
C'est quoi la différence ?
Le dégustateur, il va analyser le vin. Il est sachant. Le noble buveur, il est recevant, il est témoin. C'est pas pareil. Il y en a un qui est observant, qui est dans l'agir, et l'autre est témoin et il accueille. Quand on est dégustateur, on considère le vin comme un objet et pas comme un sujet. Et le vin ne peut pas, s'il est vivant, eh bien, il ne peut pas s'exprimer. Donc l'accueillant, le noble buveur, lui, va accueillir le vin, va le vivre. C'est pas la même expérience. Il y en a un qui peut vivre l'ivresse et l'autre, il va juste avoir le plaisir d'avoir analysé correctement le vin. C'est pas la même chose.
Et le vigneron, il est extrêmement important dans la qualité, le goût du vin.
Il est lié à son terroir. C'est pour ça que cette appartenance au terroir est important. Et c'est un sujet d'ailleurs avec les familles qui quittent tout doucement les domaines en ce moment, notamment dans les grands domaines de Bourgogne ou de Bordeaux qui sont rachetés par des grosses structures. Mais n'auront pas cette relation à la terre. C'est pas possible. Quand ça fait des générations qu'on a une relation à la terre, il y a quelque chose d'autre qui se passe.
Valérie Guérin, le grand vin est fait de silence, l'humilité. Vous cherchez à produire un vin fin et élégant. Ça veut dire quoi ?
Fin, élégant, et pour le coup, il devient rare parce que je pousse pas la production. Je veux pas m'agrandir. Je reste avec mes 13 petites parcelles. C'est vrai que je pourrais acheter davantage. C'est vrai que dans le Languedoc, les prix de l'hectare sont pas très élevés au regard d'autres régions françaises. C'est vrai que j'ai beaucoup de renoncements. Je renonce à produire des rendements comme ceux de mes voisins. Moi, je suis en moyenne à 18 hectolitres à l'hectare. Parfois même, je les tombe volontairement à 14 hectolitres à l'hectare. Je n'oublie pas de tailler court. Moi, la vigne, je taille la vigne tardivement. C'est vrai que mes collègues vont, dès que les premières feuilles tombent, ils s'empressent d'aller à la vigne et tailler, parfois à deux yeux, trois yeux. Bon, moi, j'attends.
La maturité, on y revient.
C'est toujours cette histoire de maturité qui me hante. Moi, je vais attendre le début du printemps et là, je vais aller tailler court à un œil vrai. Et pour autant, je ne ferai pas l'économie de vendanges en verre plusieurs fois sur chaque parcelle de chaque souche du domaine. Donc ça veut dire que déjà, je renonce à du beaucoup et j'ai envie du beau, j'ai envie du très beau, j'ai envie de partager, de donner à boire du beau.
C'est ça qui fait cette maturité, ce temps d'attente dont vous parlez et puis l'amour avec lequel vous le travaillez qui crée les vins d'exception que vous faites, comme ces cuvées Atsuko ou cette cuvée l'idyllique, vous l'avez d'ailleurs apportée je crois, réalisée à partir d'un cépage qui est le cépage Ledonner Pelut.
Les Ledonner Pelut, oui, deux ailes qui reprennent ce cépage espagnol qui est ma nouvelle création. C'est important de dire, je ne m'agrandis pas, pour autant je m'autorise à créer quelque chose de nouveau, une nouvelle cuvée avec un cépage qui pour autant est inscrit dans notre terroir. C'est un vrai cépage sudiste. Ça serait facile de mettre de la Syrah, de mettre des cépages qu'on retrouve partout, du sud au nord, de l'est à l'ouest. J'ai pas envie de la norme. J'ai envie de conserver notre identité, de valoriser notre terroir et même de remettre au goût du rouge, au lapsus, au goût du jour.
Pourtant, vous ne l'avez pas encore ouverte, là, vous.
C'est vrai, un cépage rare, oublié. oublier le lieudonnaire Pellute avec cette cuvée l'idyllique. Le blanc, c'est pareil. Au lieu de mettre du chardonnay, moi j'ai un conservatoire de cépages rares, presque oubliés, qui sont co-plantés au cœur de la garrigue, au cœur d'un environnement semi-sauvage où, quand on se met sur la pointe des pieds en travaillant, on peut voir les étangs, la mer, un petit cordon de sable au milieu, la lagune, une espèce de Venise, quoi.
Monsieur le délégué de la Ligue anti-alcoolique vous parle.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le fer, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui.
C'est l'heure de La Madeleine, Matteo Caranta, avec
Irène Jacob, qui publie Big Bang chez Albin Michel, où elle fait se rencontrer l'immensément grand et l'immensément petit, en évoquant la mort de son père, le physicien Maurice Jacob, et la naissance de son deuxième enfant. Et pour sa Madeleine, elle a convoqué la nappe toilée de la cuisine de son grand-père, et nous parle d'un dessert qui se trempe.
Alors ma madeleine, ça pourrait être le kouglof. La madeleine, c'est quelque chose qui se trempe dans le thé. Le kouglof, c'est aussi quelque chose qu'on doit tremper parce que c'est tellement sec. Donc on doit le tremper soit dans du chocolat chaud, soit dans du thé. Quand on se sert un morceau de kouglof, on commence toujours par un petit morceau parce que le gâteau fait peur. Il est assez haut, on a une grande part assez en longueur parce que le moule est assez grand. Et la chair est blanche-jaune et la croûte est un peu brune avec des amandes grillées. La croûte est un peu craquante, mais si le kouglof est bien cuit, l'intérieur est moelleux. Et quand on en met un morceau dans la bouche, d'abord on commence par bien sûr le mordre un petit peu, et puis il y a les parfums du kouglof qui sont assez légers, ça peut être un peu de fleur d'oranger, ça peut être un peu d'amande, ça peut être aussi le parfum de la levure. Et j'aime bien ce goût de la levure. Ce kouglof venait vraiment de ma famille paternelle, puisque ça vient d'Alsace, et que de tradition en tradition, mon arrière-grand-père, mon grand-père faisait le kouglof. C'était le seul plat, peut-être, que les hommes faisaient dans ma famille. Il fallait d'abord bien malaxer la pâte, bien la travailler, parce qu'il y avait de la poigne comme ça pour faire le kouglof. Et puis ensuite, il fallait laisser pendant toute la nuit la pâte se lever, et on beurrait un moule à kouglof. Alsacien, bien sûr, on mettait des amandes tout autour, ça c'était en général les enfants qui le faisaient, c'était assez facile. Puis on mettait la pâte à kouglof et on laissait le kouglof avec son moule en haut du frigidaire, on attendait la nuit, voilà. Le lendemain il avait beaucoup monté. Et c'est un projet le kouglof, il faut le prévoir à l'avance, il faut le laisser monter pendant la nuit, ça se discute, voilà. Alors moi, si je mangeais un peu de kouglof, je verrais tout de suite la montagne. Ce serait un paysage de neige que j'aurais dans la bouche. Ce serait une moquette verte, celle de mon grand-père. Le plat aussi en cuivre ou bien en céramique verte avec des peintures blanches. Je vois la cuisine dans laquelle voilà, le kouglof est en train de monter. Peut-être les moments de Noël. Et comme une tradition, comme quelque chose, comme un rituel qui va recommencer. Il y a une culture autour de ce plat qui se transmet.
Un plat qui se transmet, un dessert qui se trempe. Alors, Irène Jacob disait dans du chocolat chaud, dans du thé, peut-être dans du vin, Valérie
dans
Guérin.
Du muscat petit grain. Peut-être, un cépage muscat qu'on
par exemple
en Alsace, l'Autonel, et chez nous du petit grain, pourquoi pas. Et pourquoi pas essayer une première fois peut-être rester une première fois, je
ne sais pas. Il faudrait voir. Voilà, il faut tester, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, à propos de souvenirs de grand-mère, je crois que vous avez un souvenir, vous, Valérie Guérin, qui est un plat de vendange, les petites sauvageries.
Ah oui, les sauvageries, je pense à Camille. Oui, oui.
Camille Lamoureux, ici présent.
Camille Lamoureux qui est là. Moi, j'aime bien, pendant les vendanges, donner et partager à manger avec mes vendangeurs de la Violette, ceux qui participent avec moi à la cueillette des raisins. Et alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pendant cette période-là, je m'autorise à glaner en bordure de vigne. Je peux le faire parce que mes vignes ne sont pas traitées.
Puis vous cueillez les grains de raisin.
Oui, donc je vais cueillir des grains de raisin, petits grains, du fenouil sauvage, voilà. Donc j'essaie de faire un plat plutôt végan en général dans cette période-là, je dois dire. Je ne vais pas chasser le petit gibier ou les petits oiseaux qui me sont utiles après.
Bruno Queniou, vous êtes, vous, de façon plus pragmatique et plus prosaïque, à l'origine de la reconnaissance des vins bio dans le monde, des vins fins, donc par exemple ceux de Valérie Guérin. Et pourtant, aujourd'hui, vous faites un bilan plutôt critique des vins bio. Pour quelle raison ?
Oui, parce que le grand danger, c'est toujours l'infantilisation. Et on avait une infantilisation qui était énorme à l'époque où je me suis inscrit sur ce sujet à propos des terroirs abîmés, des vins qui n'avaient plus de vie, qui étaient plus vivants, qui ne nous faisaient plus vibrer, qui étaient des vins uniquement à saveur pornographique. Et donc, du coup, c'était des vins de dégustation. Mais il n'y avait pas cette vibration, il n'y avait pas cette lumière dans la matière. Donc, j'étais persuadé qu'en revenant à des sols vivants, à des vinifications traditionnelles, on réobtiendrait avec une grande rigueur, une grande patience, on réobtiendrait des très très grands vins. Et même dans des régions modestes, à des prix, un très grand vin, ça peut être, c'est pas obligatoirement une Romanée Conti, hein. Faut justement faire attention à ça, nous professionnels, dans nos mots. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le label a remplacé l'étiquette. On avait des marchands d'étiquettes, quand j'ai démarré dans le métier il y a 35 ans, on avait des marchands d'étiquettes pour buveurs d'étiquettes. Et aujourd'hui, on a des marchands de labels, ou des marchands de discours, pour buveurs de discours, et plus on est en train de renchérir sur le discours, en fait, et avec des productions qui ne sont pas toujours...
Donc il vaut mieux un produit naturel que bio ?
Non, parce qu'au moins, bio, c'est quand même un naturel, si vous voulez, ça veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de label, il n'y a pas de contrôle. Nous, en tant que caviste, on ne peut pas utiliser ce mot-là.
Qu'est-ce que vous faites, vous, Valérie Guérin? Parce que vous faites tout en bio, mais sans label, justement.
Oui, je ne vais pas chercher l'étiquette, ça m'embête quand je vois les bouteilles dans les rayonnages de caviste, pardon, Bruno, ou de grande surface, habillées d'une petite cravate jaune, orange, avec écrit bio. Ça m'embête, cette façon d'étiqueter. Moi, j'étais un bébé bio, moi. Mes parents, quand ils m'ont élevé, ils étaient bio à 100%. Je m'habille pas de vert depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mes parents l'étaient déjà quand ils ont créé le domaine. Ils étaient déjà animés par cet esprit de sol vivant. Tout démarre là. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans ces sols? Depuis que j'ai repris en 2000, ma population de lombriques, elle s'est agrandie. Et je fais tout pour qu'elle s'agrandisse. Je le vois, là, les sangliers sont de plus en plus nombreux l'hiver à venir retourner la terre pour se nourrir de mes petits lombriques qui travaille pour moi aussi. Voilà, donc c'est image, mais une réalité.
Je pense que la problématique, c'est que nous, professionnels, on n'a pas joué notre rôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas enseigné le client à découvrir son propre goût. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des écoles de dégustation, on a donné des cours de dégustation aux professionnels, aux amateurs, etc. Mais tout doucement, en fait, on se rend compte que on ne perçoit pas le vivant par la dégustation. C'est pour ça que je parle de noble buveur. Parce que le noble buveur, tout doucement, dans l'accueil, dans cet état d'accueil, il va percevoir. Hein, c'est comme le vide chez les Asiatiques. Hein, il faut être dans un état, dans l'instant, non préhensif. Et là, on va pouvoir percevoir beaucoup plus, puisqu'on va redevenir candide. Et là, le cerveau, il va ouvrir toutes ses cognitivités. Alors que quand on est en dégustation, les cognitivités sont dans un logiciel, elles sont fermées, et on ne peut pas percevoir le vivant.
Là, j'espère que présentement, vous êtes dans le bon état, Bruno Queniou, pour écouter Camille Labrault et sa cerise sur le gâteau. Cher Camille Labrault, vous nous emmenez donc à Rungis, mais pas vraiment.
Non, pas vraiment. Je suis donc allée au marché de Rungis. Enfin, c'était Rungis au Grand Palais. C'est-à-dire pas du tout à Rungis, mais près des Champs-Élysées en plein Paris. Ça s'appelait le Festival du Bien-Manger. Et on y célébrait les 50 ans de ce très grand marché alimentaire, le plus grand du monde. Car Rungis, c'est 12 000 salariés, 3 millions de tonnes de produits qui transitent chaque année et un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros. Et donc, il y a 50 ans pile, l'historique Ventre de Paris était déménagé des Halles à la banlieue. Et depuis, c'est vers cette commune du Val-de-Marne, non loin d'Orly, que la majorité des professionnels de la restauration vont faire leurs emplettes, en plein milieu de la nuit. Là-bas, il y a le meilleur de la gastronomie, comme le pire de l'agroalimentaire. Mais, je vous le dis, c'est une aventure à vivre au moins une fois dans sa vie. Se lever vers 1h du matin pour arriver à l'heure à la marée, le quartier des produits de la mer, enchaîné par une virée dans le gigantesque département Tripier, je vous épargne les détails, et celui non moins monstrueux des volailles, faire une pause cassoulet à 4h du matin pour finir avant l'aube, en buvant un café calva avec les maraîchers. À Rungis, le droit d'entrée est de 3,60€ pour les pros, 15€ pour les visiteurs lambda, soit exactement le ticket d'entrée de l'événement du week-end dernier. Mais autant vous dire que l'expérience n'était pas du tout la même. Sous la nef du Grand Palais, l'ambiance était à mi-chemin entre le carnaval kitsch et le clinquant bas de gamme des fêtes commerciales de fin d'année. Et pourtant, le dossier de presse que l'on m'avait envoyé promettait de rencontrer les hommes et les femmes qui œuvrent au quotidien pour garantir le bonheur dans nos assiettes, je cite, des producteurs qui produisent les meilleurs produits frais, des rencontres authentiques, une expérience gustative et humaine. Eh ben, j'ai rien vu de tout cela. Je n'ai rencontré aucun producteur et rien goûté de bien bon non plus. J'ai juste vu une foule se presser entre des montagnes de produits ultra calibrés, brillants et pas bio pour un sou, une tour Eiffel de crevettes, ouais, des bananes et des ananas venus des antipodes et beaucoup, beaucoup d'étiquettes de marques et de manière commerciale. Pas grand chose à voir, selon moi, avec le bien manger ni d'ailleurs le bien boire. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant et d'assez beau, ma foi, dans ces amoncellements de comestibles, ces empilements bariolés, ces mets démesurés, quelque chose qui rappelle peut-être les extravagances des tables royales. Mais aujourd'hui, à l'heure où l'on devrait tendre à une frugalité joyeuse, pour emprunter le mot à Pierre Rabhi, à une cuisine bonne, propre et juste, comme dit Slow Food, ce genre de débauche consumériste où la quantité prime toujours sur la qualité, ça pique un peu les yeux. Mon confrère journaliste Adrien Gonzalez était là aussi. Adrien a déjà fait il y a quelques mois, je vous la recommande, une enquête via Story Instagram sur le lancement des galeries Lafayette des Champs-Élysées, de leur mortadelle d'une tonne et demie et de leur tarte géante de framboise hors saison. Il avait alors dénoncé le gâchis monumental de nourriture que générait ce type d'événement. Cette fois, il a interviewé le directeur de l'agence qui orchestrait les festivités au Grand Palais et qui parle de transparence, de vérité sur les produits et de l'occasion pour les Parisiens de découvrir Rungis. Or, je doute qu'aucun visiteur n'ait ici vécu l'expérience Rungis dont je vous parlais. D'ailleurs, à la sortie, j'ai entendu quelqu'un dire « Une chose à retenir de cet événement, on n'y reviendra jamais ». Le sentiment était un peu partagé.
On a bien compris.
On est quand même rassuré d'apprendre toujours via Adrien que plusieurs tonnes de nourriture ont cette fois été récupérées et redistribuées à des associations caritatives. C'est peut-être ce que cet événement aura fait de mieux.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup Camille Labro et un grand merci à nos deux invités, Valérie Guérin d'être venue jusqu'à nous et Bruno Queniou. Alors Valérie Guérin, on peut aussi renvoyer à votre site internet lesmillevignes.fr. Oui. À votre page Facebook, à votre page Instagram.
Oui.
Merci beaucoup Bruno Queniou. Je vais renvoyer les auditeurs à votre boutique Philo Vino à Paris et puis à votre livre La vie mystérieuse du vin au Cherche Midi. Et puis on a parlé de ce film de Marie-Ange Gorbanevski, L'âme du vin, qui est en salle depuis le 13 novembre dernier. Merci à tous.
Merci. Merci.
Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Virginie Leduot, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Élise Le, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal.